Fièvre bleue de Daniel Darc. Chapitre 1er. Monsieur Paul René. La bonne écarta davantage le battant de la porte et s'effaçant. Si madame veut se donner la peine d'entrer, je vais m'informer. La personne à qui s'adressait cette engageante formule parut hésiter. Peut-être qu'il est occupé, reprit-elle.
Je ne pense pas, madame.
Je pourrais revenir. La chambrière ne jugea plus à propos de répondre. Elle ouvrit toute grande la porte du salon et souleva une épaisse portière de moquette persane. Cette mise en demeure eut l'effet prévu. La visiteuse parut prendre une grande résolution et entra. « Qui devrais-je annoncer ?» demanda la bonne. L'inconnue tressaillit légèrement. Cependant, elle avait prévu la question, car sans parler, d'un geste presque furtif, elle tendit à la femme de chambre demeurée à l'entrée de la pièce une carte toute préparée. La bonne y jeta un rapide coup d'œil et disparut. Alors, avec la brusque décision des timides qui se coupent d'avance toute retraite, la visiteuse enleva le voile de gaze double qui cachait son visage. Cela fait, anxieusement, elle se pencha vers une glace inclinée qui, sans se faire prier, lui renvoya l'image d'une jeune, fraîche et très jolie femme, au teint délicat, nuancé de fugitive rougeur, avec des cheveux châtains dorés à profusion, une petite bouche tentante et charnue, des fossettes aux joues et deux grands yeux bleus endiablés de vie, pétillant de questions, et noyés en même temps d'une brume de tendresse qui, à la moindre émotion, devait déborder en une averse de larmes, ainsi que d'un calice de fleurs la rosée au souffle du vent. La glace, qui était heureusement large et haute, fut généreuse. Elle ne se borna pas à reproduire ce joli visage, crânement coiffé d'un feutre retroussé de côté par une touffe légère de plumes. Elle reproduisit encore avec une complaisante exactitude une taille rondelette et bien modelée, des épaules exquises, une poitrine discrètement épanouie, tout un ensemble enfin harmonieux et pimpant, qui eut ravi Greuze, ce réaliste gourmet dont le pinceau se complaisait dans l'union, délicieusement apéritive, de la grâce alliée à la jeunesse et la gloire de la forme en pleine éclosion. Cependant, bien loin de paraître rassuré par l'inspection rapide des perfections ci-dessus esquissées, le regard de la jolie visiteuse exprima clairement la plus violente incertitude. « mon Dieu » semblait-elle dire, « comme me voilà faite. J'ai l'air d'une folle avec mes cheveux à la débandade et mes grands nigauds d'yeux effarés. Ce chapeau me coiffe horriblement. Quelle idée j'eus de m'en affubler. Cette robe m'habille comme un sac. Très certainement, celui que je viens voir va me trouver gauche, ridicule et laide. » Laide. Cette conviction, aussi désolante que peu justifiée, amena sur le visage de la jeune femme une expression tout à fait navrée. « Laide, » répéta-t-elle à demi-voix, « avoir fait plus de 100 lieues pour qu'il me juge laide. » Une telle perspective, à ce qu'il paraît, était intolérable, car la visiteuse se rapprocha de la porte donnant sur l'antichambre. Décidément, le mieux était de ne pas affronter ce jour-là une épreuve à ce point redoutable. Elle reviendrait un autre jour, quand elle se sentirait plus sûre d'elle, physiquement et moralement. Déjà, elle avait relevé le lourd rideau de tapisserie et s'apprêtait à tourner sans bruit le bouchon de cristal, lorsqu'un craquement léger, accompagné d'un frôlement d'étoffe, glaça le sang dans les veines de la fuyarde, qui, plus morte que vive, se retourna. Une dame venait d'entrer. Le cœur de la visiteuse se serra. Vêtue d'un long peignoir de pluche d'un rouge sombre, coiffée en cheveux et chaussée de mignonnes pantoufles, cette femme avait l'aspect tranquille et froid d'une personne qui se sent chez elle et que l'importunité de toute démarche inattendue met vaguement en défiance. Elle était d'ailleurs fort belle. Un teint mat de juive d'Orient, des traits réguliers et sérieux, éclairés par des yeux orangés qu'on eût juré noirs au premier abord, à cause probablement de l'épaisse frange de cils qui en amortissait la clarté. La bouche, un peu grande, aux lèvres habituellement serrées, laissait apercevoir, en s'entr'ouvrant, deux rangées de dents merveilleuses. Embarrassée, muette, la visiteuse était demeurée immobile, tout étourdie par la brusque révélation de ce fait si simple, auquel jusqu'alors elle n'avait point songé. Une femme habitait auprès du poète, une femme aimée, sans doute, et cette pensée, sans qu'elle pût très bien s'expliquer pourquoi, lui fut singulièrement pénible. La dame au long peignoir, de son côté, examinait avec une grande attention la jeune inconnue. Un silence lourd
plana ainsi pendant quelques secondes au-dessus des deux femmes, puis un sourire mince glissa, imperceptiblement moqueur, sur les lèvres de la dame aux yeux sombres et d'un ton poli. « C'est à Madame Brigitte Pearl que j'ai l'honneur. » Un nuage de pourpre envahit le blanc et délicat visage de la visiteuse, qui leva sur l'interrogatrice un regard éperdu. « C'est moi en effet, madame, mais... » Avec affabilité, celle qui avait parlé la première reprit « Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre, madame. J'achevais une lettre pressée lorsque ma femme de chambre m'avertit de votre visite, et j'ai dû la terminer. » Pour la seconde fois, celle qui avait accepté le nom de Brigitte Pearl rougit et, devinant une ironie sous la politesse affectée de son interlocutrice, « C'est à moi de m'excuser, madame, » dit-elle en relevant la tête. « Mais votre femme de chambre s'est méprise. N'ayant pas l'honneur de vous connaître, je ne me serais pas permis de vous demander. C'est M. Paul René que j'avais nommé, et c'était lui que je désirais voir. » À cette déclaration catégorique, l'autre dame répondit par un nouveau sourire, plus accentué que le premier, et d'un air affable. « Asseyez-vous donc, chère madame, et causons de ce qui vous amène. » Pour le coup, la petite madame Brigitte trouva que la plaisanterie passait la mesure. Sous le fouet de l'affront, une audace qu'elle ne se connaissait pas s'éveilla en elle. « Je vous répète, madame, dit-elle fièrement, que c'est au poète lui-même que j'avais affaire. Il a bien voulu répondre à plusieurs lettres que je lui ai écrites et j'espérais qu'il me ferait l'honneur de me recevoir. Puisqu'il n'en a pas le loisir, je me retire en vous priant d'excuser une démarche uniquement dictée par l'admiration sans borne qu'il m'inspire. » Ayant dit, et la gorge étranglée par une émotion à grand-peine refoulée, Madame Brigitte esquissa vers la porte une nouvelle conversion. Mais avant qu'elle eût fait un pas, une main dont l'étreinte était de fer sous le velours de l'enveloppe saisit le bras de la jeune femme et la ramenait vers une causeuse placée à la droite de la cheminée. Là, cette même main, à la fois douce et étrangement forte, fit asseoir bon gré malgré la captive. Cela fait, et sans quitter sa prisonnière, la dame au peignoir grenat s'assit elle-même auprès d'elle. « Oh, la petite mauvaise tête » dit-elle en souriant toujours de son même sourire ambigu. « Est-ce qu'on part ainsi sans rien entendre et sans s'expliquer ?»« Je vous ai dit, madame, » gronda la prisonnière. Sans la laisser achever, son interlocutrice reprit « Que vous avez écrit des lettres au poète, je le sais. De fort jolies lettres, même, et qui, adressées à tout autre qu'à lui, auraient pu être très dangereuses pour votre correspondant. » « Madame, » fit sourdement la pauvre Brigitte, devenue plus rouge qu'un coquelicot, « Madame, ce que vous faites est indigne, et je m'étonne que M. Paul René ait eu l'indélicatesse. » Elle n'en put dire davantage, couvrit son visage de ses mains et éclata en sanglots. La dame au peignoir couleur de feu demeura une seconde interdite par cette explosion inattendue de désespoir. Puis elle fit de l'épaule un léger mouvement d'impatience, mais se contenant. « Voyons, voyons, grand enfant, » dit-elle avec douceur, « écoutez-moi donc au lieu de vous désoler. Ce poète, tant admiré de vous, Paul René, enfin !» Brigitte releva sur sa cruelle interlocutrice un regard plein d'angoisse. Celle-ci ajouta, « Vous ne devinez pas? Eh bien, c'est moi-même. » « Vous? Comment vous ? » exclama la petite Madame Pearl, aussi ahurie que si le plafond se fût entrouvert, et lui déversait sur la tête le contenu de plusieurs seaux d'eau. « Qu'est-il là de si étonnant ? » reprit en pinçant les lèvres la femme étrange et complexe qui venait d'émettre un aveu si peu attendu. « Suis-je la première qui ait pris un pseudonyme d'homme ? George Sand, Daniel Stern, pour ne citer que les plus illustres, n'étaient-elles pas aussi des femmes ? Et pensez-vous donc, avec beaucoup de nigauds et quelques malins égoïstes, que la femme est incapable de talent, incapable d'application, incapable de comprendre et de créer ?« Je ne dis pas cela, » balbutia vaguement Brigitte. « Je suis même bien loin de le penser. Seulement les personnes que vous dites, tout le monde le savait. Nullement. Un petit groupe d'initiés était seul dans la confidence. Le public n'y voyait que du feu. C'est plus tard que la vérité a été connue. Il en sera de même pour moi. » « Mais enfin, » dit Brigitte, « j'ai vu à Morlaix, où je demeure, des portraits du poète. » Elle ajouta plus bas, « j'en possède un. » La femme qui disait être Paul René reprit aussitôt, « je sais en effet qu'on vend sous mon nom des portraits de pure fantaisie. J'ai eu moi-même l'occasion d'en voir quelques spécimens. Il y en a un où je suis représenté gros et gras, la face lisse comme celle d'un curé. » « Ce n'est pas le mien, » fit vivement Madame Brigitte. Dans un autre, continua la dame au peignoir sombre, le soi-disant Paul René est au contraire maigre et blême, l'œil enfoncé, la bouche socratique, l'aspect général d'un ascète en redingote. Madame Poel secoua la tête. « Celui-là non plus. » La femme de lettres, ou qui se disait-elle, reprit « J'en connais un troisième, où il louche. »« Oh !» fit Brigitte indignée. Et aussi un où le soi-disant poète est représenté sous les traits rêveurs d'un Hamlet. L'artiste a bien voulu, cette fois, lui concéder une assez jolie tête qui ressemble à celle du baryton Morel. De très grands yeux, une barbe légère de Christ italien. « Dites une tête admirable !» s'écria Brigitte avec un soupir de regret. « Une tête qui complétait si bien son œuvre !» « Pur trafic de marchands d'images, chère madame, » reprit négligemment la belle brune. « Un moment, j'ai songé à m'y opposer. Cela m'eût été facile. Puis la réflexion m'a conseillé, au contraire, de ne rien entraver du tout. Ces portraits complètent mon pseudonyme et assurent mon incognito, dont je suis fort jalouse. Vous n'avez pas idée combien cela me divertit d'attraper ainsi journellement mes contemporains. À peine 4 ou 5 de mes meilleurs amis sont-ils dans le secret. » Aussi ai-je fait, en vous la révélant, une exception dont vous me saurez gré, je l'espère. » Abîmée dans ses réflexions, la petite Madame Brigitte répondit par un vague signe de tête à la notification de la haute faveur dont elle paraissait médiocrement flattée d'être l'objet. La femme au peignoir sombre crut devoir insister. « Cette confidence restera d'ailleurs entre nous, je vous en prie, et je compte sur votre discrétion. » Mais Brigitte, qui suivait sa propre pensée beaucoup plus que la recommandation de la poétesse, reprit d'un ton plein de reproches. « Pourquoi ne pas m'avoir dit tout de suite ce que vous m'apprenez seulement aujourd'hui ?» La dame au pseudonyme devint grave. « Pouvais-je deviner que cette découverte vous impressionnerait fâcheusement ? Savais-je même que je vous verrais un jour ? Vous disiez admirer mes vers et souhaiter de m'inspirer un peu de sympathie. Je ne vois pas ce que mon identité matérielle avait à faire là-dedans, et peut-être eût-il été de mauvais goût à moi d'y faire allusion. » Brigitte, embarrassée, baissa la tête. Elle aurait pu bien dire, en effet, pourquoi la révélation de cette identité inattendue la troublait comme une déception. Après une petite pause et voyant qu'elle n'osait s'expliquer, la femme de lettres reprit « Faut-il être tout à fait franche ? J'ai eu encore un autre motif pour ne pas essayer de vous éclairer. » Brigitte, lentement, releva sur son interlocutrice un regard inquiet. Celle-ci, avec un amer sourire, poursuivit. « Je m'étais toujours douté qu'il en était des engouements littéraires de maintes jolies lectrices, comme du culte de la plupart des dévotes, où l'amour du prêtre se confond volontiers avec celui de la divinité. Vos lettres m'offraient une occasion de m'assurer du fait. Voilà, madame, pourquoi, en vous répondant, j'ai laissé se prolonger une erreur dont j'étais bien aise de mesurer la marche ainsi que les conséquences logiques. « Et vous n'avez pas songé, » s'écria vivement la jeune femme, « à ce que ce jeu pouvait avoir de cruel. Les choses, encore une fois, n'en étaient pas au point de me causer de ces scrupules, mais quand elles eussent été, j'aurais cru, au contraire, agir dans votre intérêt, en vous démontrant le danger de ces admirations idolâtres que la solitude exalte et qui ne sont au fond qu'un mirage de l'amour. » Brigitte fit un mouvement pour protester. Sa compagne l'interrompit. « Laissez-moi m'expliquer, » dit-elle avec autorité. « Je veux croire à la pureté de vos intentions, mais vous êtes travaillé par ce besoin d'émotion, d'imprévu, de faux idéal, qui ravage la vie des femmes et qui perd la plupart d'entre elles, sans que leurs complices aient à se donner la moindre peine pour les mettre à mal. Il suffit qu'ils ouvrent les bras, les insensés y tombent comme des fruits mûrs. Leur imagination a été le vrai galop, comme dit Dante. Voyez ce qui vous arrive à vous-même. D'abord, il ne vous fallait qu'un simple quatrain autographe de votre poète. Le quatrain obtenu, ce fut une lettre, quelques mots de sympathie personnelle. Puis, glissant aux confidences, vous avez laissé entrevoir à celui que vous appeliez déjà votre ami le vide désolé de votre âme, l'ennui, le désenchantement de votre entourage, le désir brûlant d'une vie autre, la soif d'aimer, l'impatience enfin de vous jeter, âmes et corps, dans une de ces romanesques aventures d'autant plus admirées de vous dans les romans qu'elles répondent à l'état de votre cœur. À cette dernière lettre, ma réponse devrait être et fut très prudente, très mesurée. J'essayais de ne pas comprendre ce qui sautait aux yeux. Je jouais sans peine, hélas, au poète désabusé, sceptique, incapable de croire à un sentiment durable, partant de la partager. Je pensais avoir ainsi, à tout jamais et d'un seul coup, tranché vos périlleuses illusions, mais déjà le mal était plus grave que je ne l'avais pensé. Ma diatribe, au lieu de vous guérir, provoqua sans doute un rêve plus dangereux, si bien que vous accouriez, pauvre petite, prête à sacrifier, au premier signe de l'idole, votre passé sans tache, votre situation de femme respectée et honnête, l'estime de vos proches, la vôtre même. Tout cela pour qui? Pour un fantôme, créé par votre imagination malade, pour une photographie anonyme et ridicule, dont l'original prétendu n'existe pas. Honteuse, comme si elle se fût brusquement trouvée en cornette de nuit, sur la place de sa petite ville, la pauvre Brigitte avait caché dans ses mains son visage empourpré. Sans colère, avec une autorité douce de chirurgien qui débride et cautérise la plaie qu'il entend promptement cicatriser, la femme de lettres reprit. « Voyez-vous maintenant où vous alliez ? Dites-le, voyez-vous ? Je ne sais, balbutia la petite madame Poel, dont les yeux se mouillèrent de nouveau. Je ne me suis pas demandé tant de choses. Je l'admirais, et j'ai souhaité de le voir, de l'entendre. Puis j'ai cru deviner qu'il était malheureux, et n'ayant pas par-devers moi aucun lien, j'ai osé faire ce rêve de me dévouer à lui, d'être son amie, une amie pas exigeante, qui se fût tenue humblement dans le petit coin d'ombre qu'il lui aurait assigné. Voilà tout, madame, je vous l'assure. » Eh, mais fit l'autre en se mordant les lèvres, ce n'était pas mal comme cela, et je ne vois pas trop ce que vous eussiez pu ajouter à un programme si complet. Mais s'apercevant qu'elle s'emportait, l'austère moraliste adoucit, par un effort de volonté, son accent et l'expression de son visage. Remerciez le ciel, cher enfant, reprit-elle maternellement, d'avoir trouvé ici, à la place de l'être égoïste et menteur que vous eussiez pu rencontrer, une femme sensée et loyale. La déception que vous ressentez n'est qu'une peine légère dont votre cœur ne peut être atteint et qui promptement s'effacera. Mais combien plus profonde eût été celle qui vous eût été réservée si la vision évoquée par votre imagination fût devenue réalité? Ne me dites pas que vous eussiez été épargné. La chose était inéluctable, fatale. Allez, je les connais tous, ces hommes que naïvement vous vous représentez plus grands et meilleurs que le commun des mortels. Or, les chimères de leur cerveau et les triomphes de leur vanité, rien ne les touche et ils ne tiennent à rien. Ils sont inconstants, cruels et pervers. Ils accepteraient avec une apparente ivresse le trésor de votre jeunesse et de votre dévouement, mais ils ne vous offriraient en échange que l'abandon et le mépris. C'est parce que je sais, c'est parce que j'ai vu, c'est parce que je connais cent exemples, lamentables ou terribles, de pareilles aventures, que j'essaye de déciler vos yeux pleins de ciel, de vous faire mesurer l'abîme et de vous crier « Ne mettez pas les pieds dans cet enfer, pauvre innocente. Vite, vite, reprenez le chemin du foyer, le chemin de l'honneur et du repos. Sauvez-vous sans regarder en arrière. Et dans l'avenir, lorsqu'une belle œuvre vous aura ému, gardez intact votre enchantement et ne cherchez pas, ne cherchez jamais à en connaître l'auteur, car une sorte de compensation inéluctable veut que celui qui marche la tête dans les soleils ait le plus souvent dans la boue tout le reste de son corps. » La femme de lettres avait prononcé avec un emportement de prophétesse cette péroraison. Ses sourcils sévèrement arqués s'étaient rejoints, barrant son front, avec une dureté soudaine et inquiétante. Ses grands yeux, aux prunelles métalliques, lançaient, entre leurs noires franges de cils, des éclairs fauves pareils à ceux des lourdes nuits d'été. Et il y avait aux coins étirés de sa bouche deux plis qui donnaient à son visage une expression d'amertume et de désenchantement. La tendre Brigitte fut effrayée, elle se leva. Aussitôt l'étrange poétesse s'apaisa. Les sourcils se détendirent, ses prunelles redevinrent limpides, presque caressantes. Le pli cruel disparut de ses lèvres, félinement souriante, et tendant à la jeune femme sa main souple à l'étreinte nerveuse. Au fond, n'est-il pas vrai? Il n'y a eu en tout ceci qu'un enfantillage dont vous rirez un jour et qui restera entre nous. Un enfantillage? Exclama Brigitte. Puis, très docile, car cette femme, positivement, lui faisait peur, elle répéta. Un enfantillage. Certainement, madame, un enfantillage.
Sans rancune alors, ma chère admiratrice. »
Et le cruel bas bleu reconduisit sa victime jusqu'à la porte du salon.
« Je ne saurais en vouloir qu'à moi de ma folie, » dit avec tristesse Madame Brigitte Poel.
« Veuillez m'excuser, madame. »
Sur ce dernier mot, elle sortit sans retourner la tête, car son cœur défaillait, et par orgueil, elle ne voulait pas que la dame au peignoir rouge fût témoin encore une fois de sa faiblesse. Elle ne vit pas l'expression triomphante qui, tandis qu'elle s'éloignait, illumina le visage, ordinairement songeur, de l'étrange poétesse.